Marx, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1869. Mon ami Joseph Wedmeyer, mort prématurément, se proposait de publier, à partir du 1er janvier 1852, une revue politique hebdomadaire à New York. Il me demanda d'écrire pour cette publication l'histoire du coup d'État. Je lui fis parvenir toutes les semaines, jusqu'à la mi-février, des articles intitulés « Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte ». Entre-temps, le plan primitif de Wedmeyer avait échoué. Mais il publia, au printemps de l'année 1852, une revue mensuelle intitulée « La Révolution », dont le second numéro est constitué par le 18 Brumaire. Quelques centaines d'exemplaires en furent alors envoyés en Allemagne, mais sans pouvoir cependant être placés en librairie. Un libraire allemand, qui se donnait comme radical avancé et auquel j'en proposais la diffusion, répondit en manifestation son effroi vertueux d'une proposition aussi inopportune. On voit, par ce qui précède, que l'ouvrage ci-dessous est né sous la pression des événements, et que la matière historique qu'il traite ne dépasse pas le mois de février 1852. Sa réédition actuelle est due, en partie, aux demandes de librairie, et, en partie, aux instances de mes amis d'Allemagne. Parmi les ouvrages qui, à peu près à la même époque, traitaient le même sujet, deux seulement méritent d'être mentionnés, Napoléon le Petit, de Victor Hugo, et le coup d'État, de Proudhon. Victor Hugo se contente d'invectives amères et spirituelles contre l'auteur responsable du coup d'État. L'événement lui-même lui apparaît comme un éclair dans un ciel serein. Il n'y voit que le coup de force d'un individu. Il ne se rend pas compte qu'il grandit ainsi, au lieu de le diminuer, en lui attribuant une force d'initiative personnelle sans exemple dans l'histoire. Proudhon, lui, s'efforce de représenter le coup d'État comme le résultat d'un développement historique antérieur. Mais, sous sa plume, la construction historique du coup d'État se transforme en une apologie du héros du coup d'État. Il tombe ainsi dans l'erreur que commettent nos historiens soi-disant objectifs. Quant à moi, je montre, par contre, comment la lutte des classes en France créa des circonstances et une situation telle qu'elle permit à un personnage médiocre et grotesque de faire figure de héros. Un remaniement de l'ouvrage ci-dessous lui aurait enlevé sa couleur particulière. Je me suis donc borné à corriger les fautes d'impression et à supprimer les allusions qui ne seraient plus comprises aujourd'hui. Ce que je disais dans la phrase finale de mon ouvrage, « Mais lorsque le manteau impérial tombera finalement sur les épaules de Louis Bonaparte, la statue des reins de Napoléon s'écroulera du haut de la colonne Vendôme », s'est déjà réalisé. Le colonel Charras a, le premier, engagé l'offensive contre le culte de Napoléon, dans son ouvrage sur la campagne de 1815. Depuis, et notamment au cours de ces dernières années, la littérature française, au moyen des armes de la recherche historique, de la critique, de la satire et de l'ironie, a donné le coup de grâce à la légende de Napoléon. Hors de France, cette rupture violente avec les croyances populaires traditionnelles, cette immense révolution intellectuelle, a été peu remarquée et encore moins comprise. En fin de compte, j'espère que cet ouvrage contribuera à écarter le terme couramment employé aujourd'hui, particulièrement en Allemagne, de césarisme. Dans cette analogie historique superficielle, on oublie le principal, à savoir que, dans l'ancienne Rome, la lutte des classes ne se déroulait qu'à l'intérieur d'une minorité privilégiée, entre les libres citoyens riches et les libres citoyens pauvres, tandis que la grande masse productive de la population, les esclaves, ne servait que de piédestal passif aux combattants. On oublie la phrase célèbre de Sismondi, « Le prolétariat romain vivait aux dépens de la société, tandis que la société moderne vit aux dépens du prolétariat. » Fermez les guillemets, étant donné la différence complète entre les conditions matérielles, économiques de la lutte des classes dans l'Antiquité et dans les temps modernes, les formes politiques qui en découlent ne peuvent pas avoir plus de ressemblance entre elles que l'archevêque de Canterbury avec le grand prêtre Samuel. Londres, 23 juin 1869. Karl Marx. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1951. Préface. De Friedrich Engel. À de 3e édition allemande, 1885. Qu'une nouvelle édition du 18 Brumaire soit devenue nécessaire 33 ans après sa parution, cela prouve que cette brochure n'a encore aujourd'hui rien perdu de sa valeur. En effet, c'était un travail génial. Immédiatement après l'événement qui surprit tout le monde politique, comme un éclair dans le ciel serein, qui fut maudit par les uns, avec des cris d'indignation vertueuse, et accueilli par les autres comme l'acte apportant le salut hors de la révolution, et comme le châtiment des troubles provoqués par elle. Mais fut un objet d'étonnement et d'incompréhension pour tous. Marx en fit un exposé court, épigrammatique. Il y expliquait toute la marche des événements survenus en France depuis les journées de février dans leurs rapports internes, montrait comment le miracle du 2 décembre n'était que le résultat naturel, nécessaire de ces rapports, sans avoir besoin de traiter le héros du coup d'État autrement qu'avec un mépris bien mérité. Et le tableau était brossé avec une telle maîtrise que toutes les révélations faites depuis n'ont fait qu'apporter de nouvelles preuves de la fidélité avec laquelle il reflète la réalité. Cette compréhension remarquable de l'histoire quotidienne vivante, cette intelligence claire des événements, au moment même où ils se déroulaient, est, en effet, sans exemple. Mais, pour cela, il fallait la connaissance profonde de l'histoire de France qu'avait Marx. La France est le pays où les luttes de classe ont été menées chaque fois, plus que partout ailleurs, jusqu'à la décision complète, et où, par conséquent, les formes politiques changeantes, à l'intérieur desquelles elles se meuvent, et dans lesquelles se résument leurs résultats, prennent les contours les plus nets. Centre du féodalisme au Moyen Âge, pays classique, depuis la Renaissance, de la monarchie héréditaire, la France a, dans sa grande révolution, détruit le féodalisme et donné à la domination de la bourgeoisie un caractère de pureté classique qu'aucun autre pays n'a atteint en Europe. De même, la lutte du prolétariat révolutionnaire contre la bourgeoisie régnante y revêt des formes aiguës, inconnues ailleurs. Telle est la raison pour laquelle Marx non seulement étudiait avec une prédilection spéciale l'histoire du passé français, mais encore suivait dans tous ses détails l'histoire courante, rassemblait les matériaux destinés à être utilisés plus tard, et ne fut, par conséquent, jamais surpris par les événements. Mais à cela vint s'ajouter encore une autre circonstance. Ce fut précisément Marx qui découvrit le premier la loi d'après laquelle toutes les luttes historiques, qu'elles soient menées sur le terrain politique, religieux, philosophique ou dans tout autre domaine idéologique, ne soient, en fait, que l'expression plus ou moins lutte des classes sociales, loi en vertu de laquelle l'existence de ces classes, et par conséquent aussi leur collision sont, à leur tour, conditionnées par le degré de développement de leur situation économique, par leur mode de production, et leur mode d'échange, qui dérive lui-même du précédent. Cette loi, qui a pour l'histoire la même importance que la loi de la transformation de l'histoire de la Deuxième République française. C'est cette histoire qui lui a servi à mettre sa loi à l'épreuve, et, 33 ans après, il nous faut encore reconnaître qu'elle a subi brillamment cette épreuve. Friedrich Engel. Chapitre I. Engel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d'ajouter, la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Cosilière pour Danton, Louis Blanc pour Robespierre, la montagne de 1848 à 1951 pour la montagne de 1793 à 1795, le neveu pour l'oncle. Et nous constatons la même caricature dans les circonstances où parut la deuxième édition du 18 Brumaire. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, a créé quelque chose de tout à fait nouveau. C'est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu'ils évoquent craintivement les esprits du passé, qui leur empruntent leur nom, leurs mots d'ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène de l'histoire sous ce déguisement respectable, et avec ce langage emprunté. C'est ainsi que Luther prit le masque de l'apôtre Paul, que la révolution de 1789 à 1814 se drapa successivement dans le costume de la République romaine, puis dans celui de l'Empire romain, et que la révolution de 1848 ne sut rien faire de mieux que de parodier tantôt 1789, tantôt la tradition révolutionnaire de 1793 à 1795. C'est ainsi que, le débutant qui apprend une nouvelle langue la retraduit toujours dans sa langue maternelle, mais il ne réussit à s'assimiler l'esprit de cette nouvelle langue, et à s'en servir librement que quand il arrive à la manier, sans se rappeler sa langue maternelle, et qu'il parvient même à oublier complètement cette dernière. L'examen de ces conjurations des morts de l'histoire révèle immédiatement une différence éclatante. Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoléon, les héros, de même que les partis et les masses de la première révolution française accomplirent dans le costume romain, et en se servant d'une phraséologie romaine, la tâche de leur époque, à savoir l'éclosion et l'instauration de la société bourgeoise moderne. Si les premiers brisèrent en morceaux les institutions féodales, et coupèrent les têtes féodales, qui avait poussé sur ces institutions, Napoléon, lui, créa à l'intérieur de la France les conditions grâce auxquelles on pouvait désormais développer la libre concurrence, exploiter la propriété parcellaire du sol, et utiliser les forces productives industrielles libérées de la nation, tandis qu'à l'extérieur, il balaya partout les institutions féodales, dans la mesure où cela était nécessaire, pour créer à la société bourgeoise en France l'entourage dont elle avait besoin sur le continent européen. La nouvelle forme de société une fois établie, disparurent les colosses antédiluviens, et, avec eux, la Rome ressuscitée, les Brutus, les Gracchus, les Publicola, les tribuns, les sénateurs et César lui-même. La société bourgeoise, dans la sobre réalité, s'était créée ses véritables interprètes et porte-parole dans la personne des Sais, des Cousins, des Royer Collard, des Benjamin Constant et des Guizot. Ces véritables capitaines siégeaient derrière les comptoirs, et la tête de l'art de Louis XVIII était sa tête politique. Complètement absorbée par la production de la richesse et par la lutte pacifique de la concurrence, elle avait oublié que les spectres de l'époque romaine avaient veillé sur son berceau. Mais si peu héroïque que soit la société bourgeoise, l'héroïsme, l'abnégation, la terreur, la guerre civile et les guerres extérieures n'en avaient pas moins été nécessaires pour la mettre au monde. Et ces gladiateurs trouvèrent dans les traditions strictement classiques de la République romaine les idéaux et les formes d'art, les illusions dont ils avaient besoin pour se dissimuler à eux-mêmes le contenu étroitement bourgeois de leur lutte et pour maintenir leur enthousiasme au niveau de la grande tragédie historique. C'est ainsi qu'à une autre étape de développement, un siècle plus tôt, Cromwell et le peuple anglais avaient emprunté à l'Ancien Testament le langage, les passions et les illusions nécessaires à leur révolution bourgeoise. Lorsque le véritable but fut atteint, c'est-à-dire lorsque fut réalisée la transformation bourgeoise de la société anglaise, Locke évinça Habakkuk. La résurrection des morts, dans ces révolutions, servit par conséquent à magnifier les nouvelles luttes, non à parodier les anciennes, à exagérer dans l'imagination la tâche à accomplir, non à se soustraire à leurs solutions en se réfugiant dans la réalité, à retrouver l'esprit de la révolution, et non à évoquer de nouveau son spectre. La période de 1848 à 1851 ne fit qu'évoquer le spectre de la grande révolution française, depuis Marast, le républicain aux gants jaunes, qui prit la défroque du vieux bailli, jusqu'à l'aventurier qui dissimule ses traits d'une trivialité repoussante sous le masque mortuaire de fer de Napoléon. Tout un peuple qui croit s'être donné, au moyen d'une révolution, une force de mouvement accrue, se trouve brusquement transporté dans une époque abolie. Et pour qu'aucune illusion concernant cette rechute ne soit possible, réapparaissent les anciennes dates, l'ancien calendrier, les anciens noms, les anciens édits tombés depuis longtemps, dans le domaine des érudits et des antiquaires, et tous les cieux sbires, qui semblaient depuis longtemps tomber en décomposition. La nation entière se conduit comme cet Anglais toqué de bœufs de l'âme, qui s'imaginait vivre à l'époque des anciens pharaons, et se plaignait tous les jours des pénibles travaux qu'il était obligé d'accomplir comme mineur, dans les mines d'or d'Éthiopie, emmuré dans cette prison souterraine, avec, sur la tête, une lampe éclairant misérablement. Derrière lui, le gardien d'esclaves armé d'un long fouet, et, aux issues, toute une foule de mercenaires barbares, qui ne comprenaient ni les ouvriers astreints au travail des mines, ni ne se comprenaient entre eux, ne parlant pas la même langue. Et tout cela, ainsi se lamentait-il, m'est imposé à moi, libre citoyen de la Grande-Bretagne, pour extraire de l'or au profit des anciens pharaons. Fermer les guillemets, pour payer les dettes de la famille Bonaparte, se lamente la nation française. Tant qu'il avait sa raison, l'Anglais ne pouvait se débarrasser de l'idée fixe de faire de l'or, les Français, tant qu'ils firent leur révolution, ne purent se débarrasser des souvenirs napoléoniens, comme l'a prouvé l'élection du 10 décembre. Ils éprouvaient le désir d'échapper aux dangers de la Révolution en retournant aux marmites de l'Égypte, et le 2 décembre 1851 fut la réponse. Ils n'ont pas seulement caricaturé le vieux Napoléon lui-même, tel qu'il lui faut se conduire au milieu du 19e siècle. La Révolution sociale du 19e siècle ne peut pas tirer sa poésie du passé, mais seulement de l'avenir. Elle ne peut pas commencer avec elle-même avant d'avoir liquidé complètement toute superstition à l'égard du passé. Les révolutions antérieures avaient besoin de réminiscences historiques pour se dissimuler à elles-mêmes leur propre contenu. La révolution du 19e siècle doit laisser les morts enterrer leurs morts pour réaliser son propre objet. Autrefois, la phrase débordait le contenu. Maintenant, c'est le contenu qui déborde la phrase. La révolution de février fut un coup de main réussi par surprise contre l'ancienne société, et le peuple considéra ce coup de main heureux, comme un événement historique ouvrant une nouvelle époque. Le 2 décembre, la révolution de février est escamotée par le tour de passe-passe d'un tricheur, et ce qui semble avoir été renversé, ce n'est plus la monarchie, ce sont les concessions libérales, qui lui avaient été arrachées au prix de luttes séculaires. Au lieu que la société elle-même se soit donnée un nouveau contenu, c'est l'État qui paraît seulement être revenu à sa forme primitive, à la simple domination insolente du sabre et du goupillon. C'est ainsi qu'au coup de main de février 1848, répond le coup de tête de décembre 1851. Aussi vite perdu que gagné. Malgré tout, la période intermédiaire ne s'est pas écoulée en vain. Au cours des années 1848 à 1851, la société française, par une méthode plus rapide, parce que révolutionnaire, a rattrapé les études et les expériences qui, si les événements s'étaient développés de façon régulière, pour ainsi dire académique, eussent dû précéder la révolution de février au lieu de la suivre, pour qu'elle fût autre chose qu'un simple ébranlement superficiel. La société semble être actuellement revenue à son point de départ. En réalité, c'est maintenant seulement qu'elle doit se créer son point de départ révolutionnaire, c'est-à-dire la situation, les rapports, les conditions qui seules permettent une révolution sociale sérieuse. Les révolutions bourgeoises, comme celles du XVIIIe siècle, se précipitent rapidement de succès en succès, leurs effets dramatiques se surpassent, les hommes et les choses semblent être pris dans des feux de diamants. L'enthousiasme extatique est l'état permanent de la société, mais elles sont de courte durée. Rapidement, elles atteignent leur point culminant, et un long malaise s'empare de la société, avant qu'elle ait appris à s'approprier d'une façon calme et posée les résultats de sa période orageuse. Les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du 19e siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau, raille impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leur première tentative, paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre, et se redresser à nouveau en formidable en face d'elle, recule constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leur propre but, jusqu'à ce que soit créée enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière, et que les circonstances elles-mêmes y crient. Hic redu, hic, salta. C'est ici que la rose, c'est ici qu'il faut danser. D'ailleurs, tout observateur moyen, même sans avoir suivi pas à pas la marche du développement de la Révolution française, devait se douter que la Révolution allait à une déconfiture inouïe. Il suffisait d'entendre les jappements de triomphe, dénués de toute modestie, avec lesquels ces messieurs, les démocrates se félicitaient réciproquement des effets miraculeux de mai 1852. Le 2 mai 1852 était devenu chez eux une idée fixe, un dogme, comme pour les chiistes, le jour où le Christ devait ressusciter et instaurer sur la terre le royaume millénaire. La faiblesse avait trouvé, comme toujours, son salut dans la croyance au miracle. Elle s'imagina avoir triomphé de l'ennemi, parce qu'elle l'avait exorcisé en imagination, et elle perdit toute compréhension du présent, se contentant de magnifier l'avenir qui l'attendait, et les actes qu'elle se proposait d'accomplir un jour, mais qu'elle ne croyait pas encore le moment venu d'accomplir. Ces héros, qui s'efforcent de démentir leur incapacité notoire en s'apitoyant réciproquement les uns les autres, et en se groupant étroitement les uns les autres, avaient fait leur paquet, empoché en à-compte leur couronne de laurier, et étaient précisément occupés à faire escompter à la bourse des valeurs des républiques une partibus pour lesquelles, dans le silence de leur âme modeste, ils avaient déjà eu la prévoyance de préparer le personnel gouvernemental. Le 2 décembre, les surpris comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, et les peuples qui, aux époques de dépression, laissaient volontiers assourdir leurs craintes secrètes par les braillards les plus bruyants, se seront peut-être convaincus que les temps sont passés où le caquetage d'un troupeau d'oies pouvait sauver le Capitole. La Constitution, l'Assemblée nationale, les partis dynastiques, les républicains bleus et rouges, les héros d'Afrique, le tonnerre de la tribune, les éclairs de la presse quotidienne, toute la littérature, les célébrités politiques et les renommées intellectuelles, le code civil et le code pénal, la liberté, égalité, fraternité et le 2 mai 1852, tout cela disparut, comme par enchantement devant l'incantation d'un homme que ses ennemis eux-mêmes ne considèrent pas comme un sorcier. Le suffrage universel semble n'avoir survécu un moment que pour écrire de sa propre main son testament à la face du monde et proclamer au nom du peuple lui-même « Tout ce qui existe mérite de périr ». Il ne suffit pas de dire, comme le font les Français, que leur nation a été surprise. On ne pardonne pas à une nation, pas plus qu'à une femme, le moment de faiblesse où le premier aventurier venu a pu leur faire violence. Le problème n'est pas résolu par une telle façon de présenter les choses, mais seulement autrefois formulé. Il reste à expliquer comment une nation de 36 millions d'hommes a pu être surprise par trois chevaliers d'industrie et menée sans résistance en captivité. Récapitulons, dans leurs grandes lignes, les phases parcourues par la Révolution française du 24 février 1848 au mois de décembre 1851. On doit distinguer trois périodes principales. 1. La période de février, 2. Du 4 mai 1848 au 29 mai 1849, la période de la Constitution de la République ou de l'Assemblée nationale constituante, 3. Du 29 mai 1849 au 2 décembre 1851, la période de la République constitutionnelle ou de l'Assemblée nationale législative. La première période, qui s'étend du 24 février, date de la chute de Louis-Philippe, jusqu'au 4 mai 1848, date de la réunion de l'Assemblée constituante, et qui constitue la période de février proprement dite, peut être considérée comme le prologue de la Révolution. Ce qui la caractérise officiellement, c'est le fait que le gouvernement, improvisé par elle se déclara lui-même provisoire, et que les de même, tout ce qui fut proposé, tenté, exprimé au cours de cette période ne le fut que provisoirement. Rien ni personne n'osa réclamer pour soi le droit à l'existence et à l'action véritable. Tous les éléments qui avaient préparé ou fait la révolution, l'opposition dynastique, la bourgeoisie républicaine, la petite bourgeoisie républicaine démocrate, la classe ouvrière sociale démocrate, trouvèrent provisoirement leur place dans le gouvernement de février. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement. Les journées de février ne visaient qu'une réforme électorale pour élargir le cercle des privilégiés politiques parmi la classe possédante elle-même et renverser la domination exclusive de l'aristocratie financière. Mais lorsqu'on en vint au véritable conflit, que le peuple monta sur les barricades, que la garde nationale observa une attitude passive, que l'armée n'opposa aucune résistance sérieuse, et que la royauté prit la fuite, la République parut s'imposer d'elle-même. Chaque parti l'interpréta à sa façon. Comme elle avait été conquise par le prolétariat, les armes à la main, ce dernier lui imprima son sceau et la proclama République sociale. Ainsi fut déterminé le contenu général de la révolution moderne, contenu en contradiction tout à fait singulière, avec tout ce qui pouvait être mis immédiatement en œuvre, dans la situation et les conditions données, avec les matériaux existants, et avec le degré de développement atteint par la masse. D'autre part, les prétentions de tous les autres éléments, qui avaient participé à la révolution de février, furent reconnues dans la part du lion, qu'ils reçurent dans le gouvernement. C'est pourquoi nous ne trouvons dans aucune autre période un mélange plus varié de phrases élevées et d'insécurité et de maladresse réelle, d'aspiration plus enthousiasme vers le progrès et de domination plus absolue de la vieille routine, d'harmonie plus apparente de toute la société et d'opposition plus profonde entre ces différents éléments. Tandis que le prolétariat parisien s'enivrait devant lui et prenait plaisir à de graves discussions sur les problèmes sociaux, les anciennes puissances sociales s'étaient groupées, rassemblées, concertées, et trouvaient un appui inattendu dans la grande masse de la nation, les paysans et les petits bourgeois, qui s'étaient tombés les barrières de la monarchie de juillet. La deuxième période, qui va du 4 mai 1848 à la fin de mai 1849, est la période de la Constitution, de la fondation de la République bourgeoise. Immédiatement après les journées de février, non seulement l'opposition dynastique avait été surprise par les républicains, et ceci par les socialistes, mais toute la France l'avait été par Paris. L'Assemblée nationale, qui se réunit le 4 mai, issue des suffrages de la nation, représentait la nation. Elle était une protestation vivante contre les prétentions des journées de février, et avait pour mission de ramener à la mesure bourgeoise les résultats de la révolution. Vainement, le prolétariat parisien, qui se rendit immédiatement compte du caractère de cette assemblée nationale, tenta, quelques jours après sa réunion, de lui dénier par la violence son droit à l'existence, de la dissoudre, de disperser à nouveau en ses différents éléments constitutifs, l'organisme au moyen duquel le menaçait l'esprit de réaction de la nation. Comme l'on sait, le 15 mai n'eut d'autre résultat que d'éloigner de la scène publique, pour toute la durée de la période que nous considérons, Blanqui et ses partisans, les communistes révolutionnaires, c'est-à-dire les véritables chefs du parti prolétarien. À la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe, ne peut succéder que la République bourgeoise. Cela veut dire que, tandis que, sous la monarchie, c'était une partie restreinte de la bourgeoisie qui avait régné au nom du roi, c'est, désormais, l'ensemble de la bourgeoisie qui doit régner au nom du peuple. Les revendications du prolétariat parisien sont des bourdes utopiques, avec lesquelles il faut en finir une fois pour toutes. À cette déclaration de l'Assemblée nationale constituante, le prolétariat parisien répondit par l'insurrection de juin, l'événement le plus formidable dans l'histoire des guerres civiles européennes. La République bourgeoise l'emporta. Elle avait pour elle l'aristocratie financière, la bourgeoisie, l'armée, le sous-prolétariat organisé en garde mobile, les intellectuels, les prêtres et toute la population rurale. Aux côtés du prolétariat, il n'y avait personne d'autre que lui-même.